Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le carême a commencé double peine, diront certains, en ce temps de Covid. Et pourtant, si le carême était au contraire l'occasion de trouver de l'air intérieurement et du grand air même. Pour nous y aider, nous allons ce matin nous intéresser à Saint François d'Assise, grand homme de Dieu s'il en est, prophète de l'extrême, au dire de mon invité de ce matin, un homme qui pourrait être notre contemporain et dont la vie, alors, ne nous laisserait pas indemne. François d'Assise, prophète de l'extrême, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église de ce matin, et aussi du livre de mon invité de ce matin, Suzanne Giuseppe Testu. Vous êtes franciscaine séculière, auteur de cet ouvrage, François d'Assise, le prophète de l'extrême, paru aux éditions Nouvelle Cité. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes donc une bonne, voire une grande spécialiste de François d'Assise, de la spiritualité franciscaine, donc très heureux de prendre ce temps avec vous. Vous me disiez que vous avez été longtemps habitué de cette antenne du temps de Sabine Caz, donc il était temps de renouer. Et de connaître un peu plus François d'Assise. Alors on en fait souvent des émissions sur Saint François d'Assise, et c'est un peu comme Dieu, on a l'impression qu'on tourne autour pour essayer un jour de comprendre. Vous allez nous y aider ce matin, et puis nous aider aussi à rentrer dans ce carême. Peut-être la première question que je vous poserai, c'est que vous, ça fait maintenant des années et des années que vous intéressez à François d'Assise, celui dont on disait que c'était un alter Christus. On n'a pas fini de tourner autour de lui pour le découvrir.
Oui, je crois que oui, c'est un terme qui a été souvent employé, mais que je ne vais pas entretenir personnellement, parce que ce que j'aime en François, ce qui m'a attiré en lui, c'est l'homme. Et très souvent, on pense que les saints sont nés saints, ce n'est pas le cas. Et c'est très intéressant de connaître l'homme avant de découvrir le saint.
Vous me disiez juste avant l'émission qu'il avait probablement un caractère impossible.
C'est ce que ses frères disaient. Je crois que tous les saints, il y a un dicton, je ne sais pas qui le dit, mais je crois que ça vient des pères de l'Église, qui disent que le meilleur moyen de devenir saint, c'est de vivre avec un saint. Voilà. Alors François, eh bien évidemment, avait un caractère, était passionné, avait beaucoup d'audace. C'était un jeune dès le départ qui vivait, qui avait une vie extrêmement mouvementée. Et je crois que en tant qu'homme, il a toujours eu ce tempérament fougueux. Et je pense qu'en tant que saint, cela ne l'a pas. Il a continué avec ce tempérament. Et il me semble que c'est ce que Dieu aime. Dieu a besoin d'hommes audacieux, ont besoin d'hommes qui dérangent, ont besoin d'hommes qui savent faire bouger. Et évidemment, quand on était proche de François, ça ne devait pas être toujours très facile.
Dieu a besoin d'hommes passionnés. Voilà, ça nous donne envie de rentrer dans le carême. Ça ressemble à une belle aventure. Alors, on va essayer donc avec Saint François d'Assise. Évidemment, on ne pourra pas parler de tout. Dans ce livre, on a choisi trois chapitres et trois mouvements. Peut-être qu'on peut commencer par aussi introduire ces trois mouvements auprès des auditeurs, qui sont quelque part trois mouvements de carême que vous proposez à l'école de François d'Assise dans ce livre. Se retourner, c'est-à-dire François d'Assise, à un moment, il a fait un tour à 180 degrés, plonger dans sa caverne, c'est l'expression que vous utilisez, et puis après, entendre l'appel de Dieu. Chacun aurait un appel particulier. Est-ce que vous pouvez peut-être introduire ces trois temps et ces trois grandes étapes
oui,
de la vie de François?
Oui, bien sûr. Alors, oui, c'est sûr que François a fait un retour dès le départ. Tous les biographes parlent du jeune François. Et je le disais tout à l'heure, il ne faut pas s'imaginer que François d'Assise, comme tous les saints, est né saint. Il avait une soif d'absolu qui s'est transformée peu à peu en quête d'absolu. Et cette soif s'est d'abord manifestée dans le monde par ses désirs mondains, par sa vaine gloire, il avait de grandes ambitions. Et toutes ses actions, en tant que jeune homme, étaient conduites par cette soif d'absolu. Alors, il est certain que ça lui a fait faire beaucoup de bêtises, mais je crois que c'était un jeune homme. Et quand on est jeune, il faut en faire, il ne faut pas en avoir peur, on en tire une expérience après. Et peu à peu, évidemment, au fur et à mesure de son avancée, le Seigneur l'a appelé, et cette soif s'est transformée en quête. Et là, à ce moment-là, il a compris que tous ses désirs mondains ne l'amenaient nulle part. que alors, ce n'était pas...
Alors peut-être puisqu'on commence oui. le premier mouvement qui est ce virage à 180 degrés, quand vous, vous le présentez comme ça, vous, peut-être, vous pouvez redire à quelle époque il a vécu, donc 12e siècle.
12e siècle.
Voilà, fils d'un grand bourgeois.
Fils d'un grand bourgeois, d'un riche marchand. Il était l'aîné de la famille, il avait un autre frère, il était l'aîné.
Donc était censé reprendre l'affaire du père.
Il était censé reprendre l'affaire du père, d'hériter, mais tout cela ne suffisait pas à François. Il avait des ambitions, et mon Dieu, oui, tout jeune a des ambitions. Et dans les écrits des biographes, on dit que les ballots de drap ne lui suffisaient pas. Donc il voulait faire la guerre. Ça paraît surprenant pour un saint comme François, qui est l'homme de paix. Il avait donc à cette époque-là...
Il voulait faire la guerre pour les honneurs.
Pour les honneurs. Et puis c'était la guerre à l'époque. Il voulait rejoindre le pape. Et la guerre à l'époque assurait certains titres, assurait des honneurs, assurait certains revenus. Donc oui, il avait une soif d'absolu, mais surtout une soif de richesse, une soif de reconnaissance.
Alors, voilà. Vous laissez entendre qu'il a entendu une parole. Alors, je ne sais pas si je me suis trompé en lisant. Il a entendu une parole. « Retourne dans ton pays, on te dira ce que tu dois faire. » Oui. C'est une parole que Dieu lui a adressée.
Alors, c'est au cours d'un songe. Au cours d'un songe. Et François part justement pour joindre l'armée du pape, pour combattre. Et cette chose-là se passe à Spolète. Spolète, c'est une petite ville qui n'est pas très loin d'Assise. Et donc tous ces jeunes qui partent en guerre, ces jeunes et ces moins jeunes qui partent en guerre, s'arrêtent à Spolète. Et là, François, dans un songe, entend cette voix qui lui demande de retourner à Assise et qui lui fait comprendre qu'il va suivre un homme, certes un seigneur, mais que ce n'est pas là, que ce n'est pas ce que Dieu attend de lui. Ce n'est pas, Dieu attend autre chose de François.
Donc il y a une autre phrase qui est extraite de ce songe, si je comprends bien, hein, puisqu'elle est aussi entre guillemets dans votre ouvrage. Qui peut te faire plus de bien, le seigneur ou le serviteur ?
Voilà. Voilà. Alors ça, c'est capital pour François. Et je ne peux pas dire, vous avez dit tout à l'heure que j'étais une spécialiste de François, pas du tout, parce que François est immense. Pour le connaître, il faut vraiment le suivre toute sa vie. Mais cette phrase résonne en lui. Il ne sait peut-être pas exactement ce que ça veut dire, il ne sait pas ce qu'il attend, mais n'empêche qu'avec sa sensibilité, François est un homme extrêmement sensible, très réceptif, et avec sa sensibilité, il comprend qu'il se passe quelque chose, il réfléchit, et à ce moment-là, il arrête tout et il retourne à Assise. Alors je ne sais pas si vous vous imaginez ce que peut représenter, parce qu'il était parti en grande pompe, bien sûr. Hein, oui. Bien sûr.
Une grosse humiliation, on va dire.
Ça pourrait être une grosse humiliation. En tout cas, il va subir des choses très difficiles. Il accepte de retourner à Assise, tout penaud. Et évidemment, il va subir l'incompréhension, il va subir les critiques, il va subir les jugements. Et il faut croire que cette phrase l'a profondément marqué et qu'il a compris qu'il y avait quelque chose de particulier, de spécifique qui le dépassait pour arrêter, pour mettre un terme à ses ambitions.
Alors, Suzanne Guessé-Pétestu, puisque c'est une émission, on va dire, d'entrée dans le carême, est-ce à dire qu'à l'école de Saint-François d'Assise, en fait, on a tous, d'une certaine manière, un moment, un rendez-vous qui est de retourner là où on n'aurait pas envie d'aller ?
Oui, je pense, parce que d'ailleurs, ce mot de retourner, François, avec ce retour, devient pénitent. Et au XIIe, XIIIe siècle, le pénitent, c'était celui qui, justement, se retournait vers le Seigneur pour faire pénitence, mais qui comprenait, qui voulait donner un autre sens à sa vie, qui comprenait que tous les processus que nous mettons en place, tous les choix parfois que nous faisons au cœur de ce monde, ne sont pas toujours selon la volonté de Dieu, et que nous avons à réfléchir, que nous avons à méditer, que nous avons à rentrer en nous-mêmes. Donc le pénitent est celui qui prend une autre orientation, qui fait métanoïa, qui se retourne, et qui accepte de répondre à l'appel du Seigneur. Mais c'est toujours prendre le risque de l'inconnu de Dieu. Et c'est ce que François fait quand il abandonne son chemin, enfin son chemin de guerre. Il accepte cet arrêt pour aller vers autre chose qu'il ne connaît pas. Il va vers l'inconnu, mais c'est quelque chose de plus fort qui le dépasse. C'est ça l'appel, c'est quelque chose qui nous dépasse. Il va le découvrir peu à peu, il va découvrir ce que Dieu attend de lui.
Donc on entend que il y a une grande part de renoncement, mais vous dites aussi que Dieu s'adresse aussi à la partie la plus noble de lui-même et à son idéal. Donc il y a aussi quelque part une aventure à vivre, il le pressent.
Oui, il y a une aventure à vivre.
Ça va avec son idée, son caractère.
Tout à fait, je crois que...
Ses grands désirs.
Je crois que ce qui est intéressant dans ce temps de carême, c'est de savoir que nous n'avons pas à copier François, nous n'avons pas à l'idéaliser, nous n'avons pas à le mettre, ça peut choquer ce que je vais dire, mais sur un piédestal. C'est un homme comme chacun de nous, un homme, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, et Dieu nous appelle là où nous sommes. Il nous appelle avec nos capacités, avec nos forces et avec nos faiblesses. Quand François est appelé, il est appelé en tant que jeune homme qui a envie de guerroyer. Il n'est pas appelé en tant que petit saint. Il est appelé en tant que jeune François. Mais avec cette force, ce dynamisme que Dieu peu à peu va transformer. C'est-à-dire tout en l'homme, Dieu se sert de tout l'homme. Donc il nous appelle là où nous sommes, comme nous sommes, et c'est avec nos forces et nos faiblesses que nous pouvons avancer, que nous pouvons mener ce chemin de carême, et d'ailleurs que nous pouvons devenir pénitents, et c'est sur ce chemin de pénitence que nous allons expérimenter, comme François l'a fait, la miséricorde de Dieu, nous allons expérimenter le pardon.
Il faut, voilà. Donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers de la vie de Saint François d'Assise, il y en a quand même un certain nombre. Donc, il retourne chez son père.
Il retourne à Assise.
Voilà, et de plus en plus, donc il sent un appel de Dieu à vivre une vie, pauvre, simple, évangélique, jusqu'à presque une rupture avec son père en présence de l'évêque. Si
oui,
on va très
c'est
vite.
Ça. Alors, c'est un long chemin, ça ne se fait pas tout seul, c'est progressif. Comme pour chacun de nous d'ailleurs, on a l'impression là aussi pour les saints que hop, ça y est, il y a un retournement, c'est terminé, ils sont sur leur petit nuage, mais pas du tout. François, ça a été très dur, donc il retourne à Assise, il est la risée de tout le monde évidemment, et à partir de ce moment-là, son entourage ne comprend pas. Bon, il est certain que son père devait être très fier du fils qui partait pour la gloire, évidemment. Et à partir de ce moment-là, François va entrer en lui-même. C'est-à-dire que ce retour vers sa terre natale, vers Assise, c'est aussi symboliquement le retour vers sa terre intérieure. Et là, il va commencer à entrer en lui-même. Il va aller dans une grotte, il va réfléchir, il va se regarder. Le Seigneur va l'aider à voir qui il est, à comprendre qui il est, à se nommer. Et en fait, ce temps de carême que nous offre l'Église est là pour faire ce retournement. Il est là pour nous apprendre à nous retourner, à nous découvrir, à savoir qui nous sommes, à nous nommer.
Alors j'aimerais aussi qu'on s'arrête sur, on va dire, les circonstances actuelles. Alors je ne vous demande pas de nous faire un développement sur le Covid ou sur la dite pandémie, mais dans votre ouvrage, vous avez entre autres cette phrase: « N'est-il pas temps de sortir du poison de la peur et de l'égoïsme, oui, de l'asphyxie, de la crainte, du repli sur soi, du pessimisme forcené, oui, dans lequel le monde veut nous entraîner ?» Vous avez tout un développement où vous laissez entendre qu'en fait François d'Assise peut aussi être un remède aux tentations démiurgiques du monde moderne. Vous parlez du transhumanisme.
Oui.
Vous mettez dedans aussi les circonstances actuelles. François peut nous aider aussi à trouver de l'air.
Je le pense. Je le pense parce que personnellement, c'est vrai que j'aime François. Je le côtoie depuis longtemps. Je l'approche depuis longtemps. Mais il est intemporel. Et justement, François est un homme libre. C'est un homme qui a de l'audace. Et pour avoir de l'audace, il faut espérer. On ne peut pas être audacieux si on n'espère pas. Alors, souvent, j'entends des personnes qui nous disent « Mais notre Église est dans une difficulté terrible, elle a toujours été en difficulté. » De tout temps, il y a eu des épidémies. De tout temps, il y a eu des pandémies. De tout temps, il y a eu des gens qui ont fait pénitence pour justement arrêter les pandémies. Ça veut dire que de tout temps, il y a eu des gens qui ont eu de l'audace, qui ont eu de l'espérance et qui ont osé ne pas se laisser emporter par une ambiance, par une certaine ambiance qui va en faire des soumis, des mous, des personnes qui ont peur, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que la frilosité, que la peur. L'audace nous met en mouvement. La frilosité et la peur nous enferment et fait de nous des morts. Et je crois qu'en ce moment, ce que nous traversons, nous avons à nous battre. Nous avons à nous battre parce que si on ne se bat pas, si on ne réagit pas, on va tomber dans une désespérance. Il suffit de regarder, et beaucoup d'auditeurs en ont fait certainement l'expérience, il suffit de regarder, enfin de voir le regard des gens derrière les masques, pour voir à quel point souvent les regards sont tristes. Ce sont des yeux qui se baissent. Tout le monde a peur, tout le monde change de trottoir. François n'a pas changé de trottoir. François a avancé, pourtant je peux vous dire qu'il vivait dans une époque extrêmement tragique, extrêmement difficile. Hein, il y avait la lèpre, il a embrassé le lépreux, il ne faut pas l'oublier. Il n'a pas mis de masque.
Il en aura embrassé des atteints du Covid, lui. Hein. François d'Assise, le prophète de l'extrême, paru aux éditions Nouvelle Cité. On va faire une pause et puis on va vous retrouver tout de suite, Suzanne Guéchépé-Testu.
Emmanuel Pella.
François d'Assise, prophète de l'extrême, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église de ce matin et le titre de votre ouvrage, Suzanne Giuseppi, pardon, hein, pour d'avoir écorché votre nom, Suzanne Giuseppi Testu. Donc c'est le livre François d'Assise, le prophète de l'extrême, paru aux éditions Nouvelle Cité. François d'Assise, donc en premier de cordée à l'occasion de ce début de carême 2021. François d'Assise, c'est donc un homme qui a fait un virage à 180 degrés et que Dieu allait chercher chercher, on va dire, dans ce qu'il avait de plus noble au cœur, à vous entendre. Une fois qu'il est chez lui, vous laissez entendre, donc il plonge dans sa caverne. C'est le temps du combat spirituel. Vous disiez tout à l'heure qu'en fait, il est même allé physiquement dans des cavernes.
Oui.
On dit qu'il a vécu pendant quelques années, en fait, une sorte un peu de déprime aussi, de dépression,
oui.
Avec des difficultés relationnelles avec son père, qui se demandait ce qu'il devenait. On sait ce qu'il vivait à ce moment-là, en fait. Il se promenait, il priait, il se cachait.
Alors, au début, François s'est caché. Parce que quand il est revenu de Spolète, bien sûr, il avait peur. Hein? Ce n'était qu'un homme.
Il avait peur de son père.
Il avait peur de son père, bien sûr, évidemment. Et il sentait bien qu'il se passait quelque chose d'extrêmement important. Donc, pour réfléchir, il a éprouvé le besoin. Et puis, pour se mettre à l'abri de ce père qu'il craignait, il est allé dans une grotte aux environs d'Assise. Et ce qui est extraordinaire avec Saint François d'Assise, c'est que nous avons des écrits. Parce qu'il avait un ami d'enfance qu'il a toujours suivi, c'était frère Léon, et qui a témoigné de l'expérience de François qui écrivait, c'était frère Léon qui écrivait la vie de François. Et donc François s'était retiré dans une grotte, et là évidemment il n'osait pas sortir parce qu'il se demandait ce qui allait se passer. Et on connaît un petit peu la symbolique de la grotte, ça l'oblige, on est dans cette obscurité, on est face à soi-même. Et là il vit un très grand combat parce que comme chacun de nous, je crois, on est tous confrontés parfois à des décisions à prendre, à des choix de vie à faire, des choix qui nous dépassent. Et là, il sent que oui, il a un choix important à faire. Il ne sait pas où il va aller. Et pour mener ce combat, il faut rassembler toutes ses forces parce qu'on est terriblement attaqué. Et d'ailleurs, on le voit dans le carême, quand on entre véritablement dans le carême, nous subissons de grandes attaques. Alors François va rester dans cette grotte et c'est là qu'on a dit qu'il retournait dans sa terre natale, mais dans cette grotte, il va descendre dans sa terre intérieure.
Alors vous parlez juste donc d'une longue période d'intériorisation et de différentes purification de son cœur, purification intellectuelle, purification de son affectivité, purification spirituelle. On va peut-être pas détailler chacune, mais je sais pas, il y a on va dire des grandes étapes classiques dans le combat spirituel.
Alors,
ça commence par le cœur, après c'est l'intellect, l'affect. Est-ce qu'il y a un ordre?
Il n'y a pas de technique. Je ne pense pas qu'il y ait des techniques. Voilà, je ne peux pas dire par où ça commence.
Ça ne fonctionne pas par strates.
Non, je crois que chacun est unique, chaque homme est unique, chaque femme est unique. Nous avons chacun notre histoire, nous avons nos processus de vie, nous avons nos répétitions, et Dieu nous montre ce qu'il a à nous montrer au moment où nous sommes en mesure de le voir et de l'entendre. Donc, dans cette grotte, François, bien sûr, va être confronté à toutes ses ambitions, à tous ses désirs humains. Il va prendre conscience de ses péchés, et ça va être un très grand traumatisme pour lui. Mais Dieu le touche là où il a à le toucher pour l'aider à entrer dans cette paix intérieure, pour entrer dans cette purification du cœur, de l'esprit, du regard. Donc par où il a commencé, je ne sais pas.
Est-ce que vous pouvez prendre quelques exemples dans ces cas-là de ce combat qu'il a vécu ou de cette période un peu de purification?
Oui,
si ça devait être,
oui,
je ne sais pas, l'affectivité ou la purification intellectuelle, ça serait quoi?
Alors, peut-être pas la purification intellectuelle, mais François avait une très grande vaine gloire. Il avait un orgueil bien trempé. Donc, on n'abandonne pas, même si à partir de Spolète, il est reparti sur Assise. Vous pensez bien qu'on n'abandonne pas un projet auquel on tient à cœur aussi facilement. Donc, il est tiraillé. Il est tiraillé par sa vaine gloire. Il a encore le désir de briller. Il a encore un besoin de reconnaissance. Nous avons tous ce besoin de reconnaissance. Nous avons tous des ambitions.
Enfin, on dit que dans son tempérament, c'était particulièrement fort, non?
C'était particulièrement fort. Oui, la vaine gloire était très forte. Bien sûr, la vaine gloire était très forte. L'orgueil était très fort. Il ne faut pas oublier que durant sa jeunesse,
d'être aimé aussi,
il avait, comme chacun de nous, il avait besoin d'être aimé. Il faisait partie d'une bande de jeunes à Assise, il était le chef de bande. François avait une forte personnalité, il avait un fort pouvoir de persuasion. Et il aimait ça, certainement. Qui n'aime pas ça? Donc, eh bien, Dieu va le rattraper à partir... Dieu, je crois, nous rattrape toujours à partir de nos faiblesses, pas à partir de nos qualités. Elles ne nous appartiennent pas, elles lui appartiennent. Donc, il nous rattrape à partir de nos faiblesses. Et c'est justement parce que nous sommes rattrapés, parce qu'il est rattrapé dans la grotte, sur cette vaine gloire, sur cet orgueil, sur cette démesure, qu'il va commencer à réfléchir. Il va accepter de regarder, si nous n'acceptons pas de nous regarder en vérité, avec honnêteté, c'est ça le carême, c'est ce que vit François dans la grotte, il va accepter de se regarder en vérité, il va rassembler toutes ses forces, et ces forces justement, nous les contenons, elles sont au fond, Dieu nous touche au cœur, et c'est là que François va accepter de voir, il va accepter de voir qui il va accepter de comprendre qui il est, et il va accepter que de comprendre que Dieu l'amène.
Alors, Suzanne, oui. Je voudrais qu'on s'arrête sur un aspect, c'est qu'en fait, François d'Assise aussi, Dieu l'appelle d'une manière, on va dire, singulière et particulièrement forte, à une vie donc radicale et du coup une certaine marginalité.
Oui.
Ça peut être pour ceux qui se sont convertis, il y en a probablement parmi les auditeurs, parfois quand on devient chrétien, quand on essaie de cheminer, de commencer à prendre l'évangile au sérieux, etc., la marginalisation, ça peut faire partie, on va dire, du package de la vie chrétienne. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu de cette radicalité ou marginalisation qu'il a vécue, pour commencer?
Mais, alors, je crois que la radicalité... La radicalité, il ne faut pas la voir comme quelque chose d'intransigeant, de dur, d'austère. La radicalité, selon Dieu, c'est un choix. Elle part d'un appel. Elle part d'un appel qui nous dépasse. Elle part d'une force qui nous dépasse.
Alors, commencez par prendre un exemple dans sa vie, en fait. Quand on dit radicalité, pour François d'Assise, au début, ça consistait en quoi, en fait?
Par exemple...
Il est allé vivre un peu au large d'Assise, alors, et il a commencé à construire une église tout seul en son
coin. Première radicalité, je crois, selon Dieu. Entendons-nous bien, parce que la radicalité peut être très tranchante et très dure selon le monde. Ça peut faire beaucoup de mal. Mais la radicalité que vit François sur son chemin de sainteté, c'est une radicalité d'amour. Par exemple, il quitte la grotte, il va dans une petite église de Saint-Damien, hors les murs, et là, il entend le Christ qui lui dit « François, va, répare ma maison qui tombe en ruine ». Il y a cette relation, cette radicalité, selon Dieu, elle part d'une relation, elle part d'une rencontre de personne à personne, elle part d'une confiance, elle part d'une force qui nous dépasse. Et à partir de ce moment-là, François ne cherche pas à comprendre. Va, François, répare mon église qui tombe en ruine. Il est certainement très loin d'imaginer, quoique certains franciscains disent qu'il a peut-être pensé à autre chose.
Mais, à l'église avec un grand E. Oui.
Voilà. Mais au départ, François entend « Répare mon église qui tombe en ruine ». Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tout. Il se fait ermite maçon. Et il va réparer les petites églises qui tombent en ruine autour d'Assise.
Alors ça, c'est l'exemple pour la radicalité?
Ça, c'est un exemple de radicalité.
Si vous deviez prendre un exemple de marginalisation, en fait, c'est
alors,
son
marginalisation,
chemin l'a marginalisé un petit peu, quand même.
Oui. Alors, la marginalisation, il ne faut pas oublier que en premier lieu, cette marginalisation, elle vient du rejet de son père. Parce qu'il y a une énorme bagarre qui se passe, pour employer des termes actuels, qui se passe devant l'évêque d'Assise, devant Guido, hein, puisque son père l'accuse de vol, hein, puisque François a volé des draps. Bon. Pour aider les pauvres.
Pour donner l'argent,
voilà,
aux pauvres.
Pour donner l'argent aux pauvres. Et son père aime l'argent. Hein, c'est un marchand. On ne devient pas riche toujours comme ça, en donnant tout aux pauvres. Donc, il est certain que son père porte plainte. Et François, là, fait un choix devant Guido. Il fait le choix de désobéir à son père, il fait le choix de suivre le Christ, parce qu'il y a eu cette étape dans la grotte qui lui a permis de réfléchir, c'est-à-dire que sa vie commence à prendre sens.
Et racontez la scène, voilà, en présence de l'évêque, qui n'a pas forcément connu tout le monde.
Ah, alors ça, il y a beaucoup de monde apparemment autour de l'évêque. Et François, qui est un jeune homme qui a beaucoup d'audace, c'est un Italien, ne l'oublions pas. Donc, à un moment donné... l'évêque met les choses au point avec le père et avec François, et François se met tout nu et dit à partir de maintenant, je ne suis plus le fils de Bernardone, hein, je suis le Christ, hein, j'abandonne tout, je suis le Christ. Donc son père ne supporte pas cela et à partir de ce moment-là, il reste sous la protection de l'évêque, bien sûr, mais à partir de ce moment-là, son père va le renier. Et qui dit renier à cette époque-là, c'est le rejeter complètement, c'est François ne peut plus espérer
plus aucune sécurité
dans cet héritage,
financière.
Plus aucune sécurité financière. Et n'oublions pas que nous sommes au Moyen-Âge, il y avait les murs, assises c'est intramuros, et il y avait hors les murs. Toutes ces petites chapelles que François les réparait, elles étaient hors les murs. Et François est amené, comme les lépreux, à vivre cette marginalisation. Il quitte Assise et il va hors les murs. Il devient errant. Il est en errance.
Sous la protection de l'évêque, ça veut dire
alors,
que l'évêque
il
quand
reste
même
sous la protection, sous l'autorité de l'évêque.
Fait en sorte qu'il ne meure pas de faim, c'est ça ou...
Oh, il ne meurt pas de faim. Si, justement, c'est une bonne question, parce que le prêtre de la petite chapelle de Saint-Damien est très pauvre, donc il lui donne le meilleur qu'il a pour manger. Mais François se rend compte à ce moment-là, encore un exemple de radicalisation, il se rend compte que ce prêtre lui donne tout ce qu'il a pour manger parce que François était très choyé dans sa famille. Et François décide à ce moment-là, compte tenu du sens qu'il est en train de donner à sa vie, il est en train de suivre le Seigneur, ça il commence à le comprendre, il va mendier sa nourriture à Assise. Et donc il va être rejeté comme un chien, on va lui donner les restes. Et il est dit dans les écrits...
Donc il va mendier là où il est connu, en plus.
Là où il est connu. Et il s'impose cette chose-là. Voilà un exemple de radicalisation pour le Christ. Pas pour briller. Là, ce n'est plus pour briller. Ce n'est plus par vaine gloire. Ce n'est plus pour dire « Regardez comme je suis bien ». Ce n'est plus du tout ça. Il le fait par l'amour du Christ. Et il dit, à un moment donné, qu'il a un haut le cœur. Un haut le cœur. Mais il mange quand même ce qui lui est jeté.
Alors, Suzanne Giuseppe Testu, à ce, on va dire, ce stade-là de l'émission et on va dire, de ce parcours de carême derrière Saint-François d'Assise, on peut entendre la réserve qu'ont un certain nombre de pratiquants, on va dire pour ceux pour qui Dieu est quand même quelqu'un, qui est de suivre Jésus, mais de loin. Parce que ce type de combat spirituel ou ce type de radicalité, alors on entend que c'est un chemin de liberté, ça peut faire peur.
Oui.
Tout le monde n'a pas envie d'être émondé comme ça.
Tout
alors,
à fait.
Qu'est-ce que vous diriez ?
Ben, je dirais que moi, je ne suis pas François, déjà, et que je fais à ma mesure, et que la vie des saints est très intéressante, nous l'avons étudiée, parce que justement, nous l'avons dit, ce ne sont que des hommes. Mais si François a fait tout cela, c'est parce que Dieu lui en a donné la force. C'était son appel. François pouvait faire cela parce qu'il était appelé à cela. Alors certes, il a répondu oui. Il a dit oui, bien sûr, il aurait pu ne pas dire oui. Il a suivi le Christ au regard de ce que le Christ lui demandait. Mais moi, Suzanne, petite franciscaine...
Le lâcher-prise ou la liberté intérieure n'est pas toujours à ce prix-là ?
Alors, le lâcher-prise, c'est un mot qui est important et qu'il faut bien préciser dans le cadre de François.
C'est très voilà. À la mode, c'est un mot très à la mode.
C'est un mot très à la mode, on y met tout et n'importe quoi, c'est comme l'amour. On met tout et n'importe quoi derrière le mot amour. Alors, je ne dis pas que le lâcher-prise n'est pas une chose utile, mais dans le lâcher-prise, il y a, on dit lâcher-prise, d'ailleurs rien que le mot lâcher, il y a une sorte de crispation, il y a une sorte de résistance, il faut lâcher. C'est-à-dire que dans le lâcher-prise, on s'appuie sur nos propres forces. Et à un moment donné, il faut... D'ailleurs, on nous dit, mais lâche, arrête, ça suffit. Alors, on lâche, mais ce n'est pas satisfaisant. D'ailleurs, on le voit, on lâche et on revient à nos anciennes amours. On le sait, ce n'est pas satisfaisant. Donc, François, il ne va pas lâcher prise. Il va se déposer. Il va se déposer dans les bras du Seigneur.
Quelle nuance vous faites entre lâcher prise et déposer ?
Et bien, tout simplement, dans la déposition, je m'abandonne. Je fais confiance en Dieu. Je m'abandonne dans les bras du Seigneur. Je le suis et je sais que quoi qu'il arrive, il est là. Il est là et il va m'aider. S'il m'amène sur ce chemin, s'il m'amène sur cette voie, c'est que j'en ai la capacité et qu'il va m'en donner la force. Donc je vais avancer non pas avec crainte et tremblement, mais je vais avancer peut-être avec Des peurs, oui, parce que la peur, ben, elle est là, bien sûr, des inquiétudes, des doutes peut-être, évidemment. Mais je vais avancer avec cette confiance en Dieu, avec cet abandon, et elle va être là, ma force. Je ne m'appuie plus sur mes propres forces humaines, je m'appuie sur la grâce, je coopère à la grâce. Voilà la grande différence.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple, justement, avant qu'on fasse une deuxième pause, dans la vie de François d'Assise, de ce mouvement, on va dire, du lâcher-prise à la déposition?
Oui,
si on reste dans les débuts de François.
Oui,
de
son existence. Reste dans les débuts de François, oui. C'est un mouvement qui est essentiel et qui poursuivra François jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, c'est la première chose dont il parle dans son testament, c'est le baiser aux lépreux. Quand François a une peur, vous savez, on a peur de la pandémie à l'heure actuelle, pourtant ce n'est pas la lèpre, mais François avait une peur terrible des lépreux, et pour cause, bien sûr. Et quand François croise le lépreux, ils vont s'embrasser. Ils vont s'embrasser. Et là, cette peur se transforme en joie. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a cette force, il y a cet abandon en Dieu qui le pousse. Il ne le sait pas encore. Mais après, il va en prendre conscience et c'est ce qui fera sa force et son audace.
Il n'a pas conscience de quoi, à ce moment-là, vous dites ?
Mais tout simplement, il y a cette force qui le pousse à embrasser le lépreux. Il se passe quelque chose d'immense. Mais vous savez, souvent, nous comprenons après coup ce qui nous est arrivé. La pédagogie divine est à l'œuvre et on n'est pas toujours capable de la nommer. Mais c'est au fur et à mesure que l'on chemine, que l'on est pèlerin, que l'on pose des actes en Christ, que la pédagogie divine se dévoile et que là, on comprend que Dieu est là et que Dieu était là.
François d'Assise, le prophète de l'extrême, c'est le titre de votre livre, paru aux éditions Nouvelle Cité dans la collection Spiritualité. On vous retrouve dans quelques minutes.
Présence dans la vallée du Lot, 92.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
François d'Assise, prophète de l'extrême, c'est le titre pour rappel de l'émission Vivante Église de ce matin. Et nous sommes pour cela avec Suzanne Giuseppe Testu, qui est donc franciscaine séculière, auteure de nombreux ouvrages sur saint François d'Assise. Ou presque, La Déposition, Nouvelle Cité aussi, 2009, Les Mouvements de l'âme intérieure, Nouvelle Cité, 2011, et là, donc, c'est François d'Assise, le prophète de l'extrême, paru aux éditions Nouvelle Cité aussi, et votre ouvrage, celui-là, il est de 2015. Donc, François d'Assise, cet homme que Dieu appelle à faire un virage à 180 degrés, qui vit donc un grand combat, comme chacun de nous, dans le fond, dans notre vie, et peut-être particulièrement à l'occasion du carême. Et puis un homme, à vous entendre, qui, dans sa caverne, petit à petit, donc, entend un dieu qui l'appelle à en sortir de sa caverne et qui lui adresse un appel singulier. Alors, avant qu'on en parle un peu plus, j'aimerais qu'on s'arrête sur une phrase que vous m'avez donnée, qui est du pape François. C'est dans Evangelii Gaudium, donc sa première exhortation apostolique, sortie d'ailleurs la même année que votre livre, en 2015. Oui. François dit la chose suivante, donc c'est le pape François, qui parle de François d'Assise. François propose une évangélisation qui éclaire les nouvelles manières de se mettre en relation avec Dieu. François propose une évangélisation qui éclaire les nouvelles manières de se mettre en relation avec Dieu, avec les autres et avec l'environnement, et qui suscite les valeurs fondamentales. Ce qu'on entend derrière cette phrase, c'est que François d'Assise aurait donc une actualité particulière pour les temps que l'on a à vivre. Qu'est-ce que vous comprenez de cette citation ? Pourquoi vous me l'avez donnée ?
Je l'ai donnée parce que j'ai toujours pensé que François était intemporel, qu'il était très, très actuel. Pour moi, il est toujours vivant. Et quand je pars sur les routes d'Assise avec François, et avec, je prends toujours quelques passages de sa vie, eh bien, je m'aperçois que c'est véritablement un homme de relation. Et à l'heure actuelle, la relation est souvent très superficielle. Et François nous aide, comme il a fait avec le lépreux, comme il a fait avec les pauvres, comme il a fait avec ses frères. Le Seigneur lui a donné des frères, justement, pour qu'il puisse cheminer. Et nous ne sommes pas conscients que le Seigneur, nous aussi, nous donne des frères et des sœurs pour avancer. Et François, comme le Christ, est un homme de relation. Il sait aller vers les autres. Il ne reste pas dans une superficialité, dans une relation mondaine. C'est un homme qui sait être vrai, qui ne triche pas. On a dit qu'il avait beaucoup d'audace. Il n'a pas peur d'être contredit. Il affronte le monde. Il ne refuse pas le monde. François ne s'enferme pas dans un couvent, dans un monastère. Il va au-devant des autres. Il est en mesure d'écouter l'autre et d'écouter tout ce que dit l'autre. Et de l'aimer et de l'aider au-delà de tout ce qui est dit. Au-delà de l'histoire de la personne qui lui fait face, il est en mesure de l'aider à cheminer vers le Seigneur, tout simplement parce qu'il écoute avec amour, il écoute en vérité, et je crois qu'il est capable de cela parce qu'il est descendu en lui-même, il a fait un chemin de vérité sur lui-même. François a appris à se connaître, il a appris à savoir qui il a appris à connaître ses ombres, il a appris aussi à connaître les forces que le Seigneur lui donne.
Mais Françoise Giuseppe Testu, si le pape François dit qu'il a une actualité particulière, on a envie de dire ce que vous décrivez d'un homme, on va dire, profondément authentique, vrai, simple, ça vaut pour toutes les époques. Pourquoi est-ce que vous pensez que le pape François nous le propose aujourd'hui ?
Je pense que, comme je l'ai dit, parce que c'est un exemple qui ne peut vieillir, François. Nous sommes séparés de François par 800 ans d'histoire, et j'ai l'audace de penser que dans 800 ans, il sera encore là, tout simplement parce que c'est un homme profondément humain. Profondément humain, et le pape François a découvert l'humanité de François. Nous faisons des saints, des saints. Eh bien, les saints ne sont pas saints. Ce sont des hommes en chemin, avec leurs faiblesses, leurs fragilités, leurs misères. Et je crois que c'est ce que le pape François veut nous faire comprendre. François est actuel, c'est un homme. Et nous avons à le regarder vivre en tant qu'homme. Et dans notre actualité, peut-être à se dire, moi parfois je me dis, mais quelle aurait été peut-être la réponse de François face à ce que nous vivons à l'heure actuelle ? Ou dans mon carême, j'entre en carême, il y a des choses que je n'ai pas du tout envie de faire, aller embrasser un lépreux, mais peut-être que, compte tenu de ce que François a vécu à partir de cette expérience, de l'effort qu'il a fait, du pardon qu'il a reçu du Seigneur, peut-être que je vais franchir un pas en m'appuyant sur l'homme François, pas sur le saint, sur l'homme François. Je vais continuer, je vais faire moi aussi mon chemin de sainteté. Et je crois que c'est ce que le Saint-Père veut essayer de nous faire comprendre.
Alors si on s'arrête justement à la vie de l'homme, après cette période qu'on a décrit, rapidement, hein, pas avec force détails biographiques, mais je pense que sa vie est quand même un tout petit peu connue. Donc il retourne à Assise, il vit cette période donc de... on va dire, de cheminement intérieur, hein, en eau profonde, comme on dit. Et puis Dieu l'appelle. Donc l'appelle, va dire, avec ce qu'il est, avec ce premier, on va dire, cette première transformation. Il lui adresse donc un appel simple et radical, en l'occurrence. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet appel? Vous dites qu'en fait, il a tout simplement... écouter l'évangile du jour et oui. Après décider de le vivre, c'est ça?
Oui, oui. Alors c'est très intéressant ça parce qu'on s'aperçoit que dans notre vie, on dit mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et la chose la plus terrible, c'est de se poser en permanence la question. Parce que là, on va donner nos propres réponses et on va passer à côté de l'appel du Seigneur. Hein, on va répondre nous-mêmes. Et on s'aperçoit dans la vie de François qu'il y a plusieurs appels. « Va, François, répare ma maison qui tombe en ruine. » Bon, et François, il obéit, il y va. Mais ce n'est pas encore sa vocation profonde. Ce n'est pas sa véritable vocation. Dieu l'appelle ailleurs, mais je crois que Dieu nous appelle à notre vocation profonde quand nous sommes en mesure de l'entendre, quand nous sommes en mesure de la vivre, quand nous avons les forces suffisantes pour la vivre. Et il s'est passé 3 ans à partir de ce premier appel de l'église de Saint-Damien, avec le crucifié de Saint-Damien, il s'est passé 3 ans, pendant 3 ans, donc François a été ermite maçon, et voilà qu'un jour, il a été en contact avec les lépreux, il est devenu pauvre, c'était plus le fils de riche, donc il a grandi en maturité, hein, il a eu le temps de se laisser travailler intérieurement, et un jour, il rentre à la petite chapelle, les petites églises de la Portioncule, et là, il entend l'évangile qui demande de tout abandonner, de partir sans argent, sans bourse, hein, sans rien. Et là, François réalise que c'est vraiment ça qu'il veut. Il dit, voilà ce que je veux.
Ce que je cherche, ce que je brûle d'accomplir.
Voilà, ce que je brûle d'accomplir. Et ça, il est certain que quand on en parle...
Vous ajoutez, les témoignages disent que séance tenante, sans hésiter, sans attendre, il s'y met.
Comme les apôtres. C'est-à-dire que l'appel est tellement fort et ça correspond tellement à son attente. Nous l'expérimentons, ça, en tant qu'humains dans notre vie. Parfois, on dit, mais c'est tout à fait ça. Mais bien sûr, c'est tout à fait ça que je veux faire. C'est comme ça que je le vois et on fait. Il y a une confiance qui est là. Il y a un appel très fort. Nous avons la certitude que c'est bien ça. Et là, à ce moment-là, François arrête tout et il va devenir François d'Assise. Là, et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, pour accomplir sa vocation, pour mener à terme, à bien sa vocation et grandir dans son chemin de sainteté, pour accomplir le désir de Dieu, Dieu va lui donner des frères. Et la fraternité va naître et ensemble, ils vont devenir pauvres.
Alors voilà. Suzanne Giuseppe Testu, vous faites aussi pas mal d'accompagnement spirituel, je ne l'ai pas dit jusque-là, mais ça s'entend quand même dans votre propos. Le pape François a souvent une expression qui est « tuer une mission », il dit ça aux jeunes.
Oui.
On pourrait s'appliquer la même chose à nous.
Oui.
On est tous comme François d'Assise, on a tous, on va dire, une mission.
Oui, nous avons tous une mission. Nous avons tous une mission et il ne faut pas en avoir peur. Et surtout, il ne faut pas se mesurer. Moi, je ne me mesure pas à la mission de François. Ma mission, elle est toute simple. Hein, et elle ne se mesure pas. Il suffit de la vivre en vérité, en s'abandonnant à la volonté de Dieu, en coopérant à la grâce, en s'abandonnant dans les bras du Seigneur. Moi, parfois, je me trouve dans des situations bien difficiles. Je suis partie en mission dans la famille franciscaine au Proche-Orient. Je me suis trouvée dans des situations extrêmement difficiles parfois et je me suis déposée dans les bras du Seigneur parce que je savais que s'il m'avait envoyé là, il était là et que je devais avancer. C'est ça le temps du carême. Avancer, ne pas avoir peur, ne pas se mesurer, ne pas partir sur des grandes décisions, mais avancer petitement, mais sûrement et en vérité. C'est ce qu'a fait François.
Est-ce que vous pouvez nous parler pour finir de l'évangile de la paix? Puisque quand il reçoit son appel, il reçoit l'appel à annoncer l'évangile de la paix. Pour illustration donc de la force de cette expression, c'est probablement comment dire, la visite au sultan lors de la période des croisades, hein, où il passe donc on va dire côté ennemi, oui, pour aller rencontrer le sultan. Le pape François on a reparlé de cet épisode dans son encyclique Fratelli Tutti, récemment paru. L'évangile de la paix pour François d'Assise, ça voulait dire quoi en fait?
C'est la parole. Tout simplement, François, d'ailleurs sa première règle, la première règle de François, c'est la parole de Dieu, c'est les béatitudes. Donc dès l'instant, et il ne faut pas en avoir peur, parce que justement on dit, oh là là, les béatitudes, c'est pas possible. Mais je rappelle toujours que le Christ a vécu les béatitudes en tant qu'homme. Et la première règle de François, c'est les béatitudes. Et si on s'imprègne des béatitudes, et si on les médite avec le cœur, il est certain que ça nous conduit sur un chemin de paix. Alors certes, on n'y arrive pas à tous les coups, c'est difficile. François n'y est pas arrivé à tous les coups, il a chuté souvent, mais quand il est allé justement rejoindre les croisés, il n'y est pas allé au départ avec un sentiment de paix, il y est allé comme le sentiment qu'avaient tous les hommes de son époque. Mais quand il est arrivé...
C'est-à-dire ?
Eh bien, tout simplement, c'était une cause juste pour François. On oublie de le dire, François n'est pas parti pour faire la paix. Il est parti là-bas parce que c'était une cause juste. Mais quand il est arrivé sur
parce
place...
Parce que ça a scandalisé que la terre du Christ soit occupée comme ça.
Oui,
etc.
Très certainement, bien sûr, bien sûr. Et ça, on oublie de le dire. Mais quand il est arrivé là-bas et qu'il a vu tous ces massacres... Là, il n'a pas supporté et il a compris qu'il fallait arrêter. Et d'ailleurs, si on l'avait écouté, on aurait évité des milliers de morts. On aurait évité des milliers de morts. Bon, et ensuite, alors bien sûr, François a compris ce que c'était que la guerre. Il a compris que c'était de la folie, c'était la folie des hommes. Mais il y a aussi l'exemple de homme de paix, parce qu'il y avait la guerre, une guerre entre hommes, l'évêque et le maire, le podestat d'Assise, qui se faisait une guerre farouche. Et François, comment dirais-je, les a rassemblés, les a réconciliés. Partout où François allait, il s'annonçait un homme de paix. Il disait « paix à cette maison ». Pace bene, paix, eh bien, paix à vous. Hein. Donc François, mais on ne peut apporter la paix, vous savez, on peut avancer avec des banderoles pour la paix, mais si on n'est pas en paix au plus profond de soi, peut-on apporter la paix? Hein, si la colère me ronge à l'intérieur, je peux défendre la paix, mais elle ne rayonnera pas. Et la paix, qu'est-ce que c'est? C'est le Christ en moi. Donc François était homme de paix parce qu'il rayonnait la paix, il rayonnait le Christ, tout simplement.
François d'Assise, le prophète de l'extrême, c'est le titre de votre livre à lire en ce temps de carême, paru aux éditions Nouvelle Cité dans la collection Spiritualité. Merci beaucoup, Suzanne Giuseppe Testu.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.